mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte improbable de Tchécoslovaquie intitulé « Grand, large et perçant », issu du recueil « Sorciers et magiciens » de Fiona Waters et Fabien Negrin. Cet instant sera suivi de la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons le décret sur le divorce, prononcé le 20 septembre 1792 à l'Assemblée nationale. Viendra ensuite la rubrique « Environnement », où nous entendrons une utopie en construction de Lyell Watson au sujet de la télékinésie, la parole de Ricarda Winkelmann qui nous parlera calotte glaciaire et la recette éco-geste pour faire son propre liquide vaisselle. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons prime de vacances. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Grand, large et perçant. Conte improbable de Tchécoslovaquie. Issu du livre Sorciers et magiciens de Fiona Waters et Fabien Negrin.
Depuis des années, le seul souhait du roi était de voir son fils unique, le prince Karel, se marier et s'assagir. Un matin, au petit déjeuner, le roi déclara « Mon fils, prends cette clé d'or et monte au sommet de la tour nord. Là, tu trouveras une porte que tu ouvriras. Entre et tu verras ce que tu verras. » Le prince Karel fut fort intrigué. Il ne se rappelait pas avoir vu une porte en haut de la tour nord. Pourtant, elle s'y trouvait bien, tout en haut de l'escalier tortueux. La clé d'or s'introduisit sans problème dans la serrure et le prince Karel pénétra dans une pièce circulaire. 12 grandes fenêtres s'élevaient du sol jusqu'au plafond, de couleur bleu nuit et couvertes d'étoiles scintillantes. Les fenêtres se composaient de panneaux de verre colorés et le soleil qui filtrait à travers les carreaux dessinait des auréoles bariolées sur le sol de marbre poli. Le prince s'aperçut que chaque vitrail représentait une princesse, chacune d'elles plus belle que la précédente. Sous son regard, les portraits des princesses s'animèrent comme si elles étaient vivantes et toutes sourirent au prince médusé. Un lourd rideau de velours recouvrait un seul des vitraux, quand le prince Karel tira la tenture, il découvrit une autre princesse, vêtue de blanc et d'argent, avec une couronne de minuscules perles sur ses longs cheveux bruns. Elle était plus jolie que toutes les autres réunies, mais affichait un air pâle et triste et ne souriait pas. Le prince retint son souffle. Il reconnaissait la princesse de ses rêves. Mais quand il tendit la main vers le vitrail, la pièce s'obscurcit, le tonnerre gronda soudain et toutes les princesses disparurent. Le prince Karel dévala l'escalier de la tour et alla retrouver son père. En l'entendant décrire la princesse à l'air triste, le roi eut les larmes aux yeux. « Hélas, mon fils, dit-il, tu as choisi la princesse Katia. Elle est enfermée dans la forteresse d'un méchant sorcier à de nombreux lieues d'ici. Va la chercher avec ma bénédiction. Elle sera tienne si tu restes constant. » Et le prince se mit en quête de la princesse Katia. Il chevaucha des jours et des nuits sans s'arrêter, traversant forêts et marécages et contournant de grands lacs. Il avait fait halte près d'une mare pour laisser reposer son cheval quand il entendit une voix derrière lui. « Jeune homme, si tu m'emmènes avec toi, tu en tireras profit. » Se retournant, le prince Karel vit accourir vers lui le plus grand homme qu'il eût jamais contemplé. « Qui es-tu ? » interrogea le prince. « Et pourquoi devrais-je t'emmener ?»« Mon nom est grand et je peux m'étirer aussi loin que tes yeux peuvent voir. »« Ma foi, cela pourrait être utile, » murmura le prince Karel. « Viens avec moi. » Et ils partirent ensemble. Au bout d'un moment, Grand dit « Jeune homme, n'emmènerais-tu pas aussi mon ami Large ?»« Qui est-il ?» « Et pourquoi devrais-je l'emmener ?» demanda le prince. « Me voici !» fit une voix joviale à son côté. Et le prince Karel découvrit un petit homme rond qui ressemblait à un tonneau. « Je peux avaler le plus profond des océans et le plus puissant des vents !» déclara Large. « Ma foi, cela pourrait être utile !» murmura le prince. « Viens avec moi !» et ils partirent ensemble. Au bout d'un moment, Grand reprit. « Jeune homme, n'emmènerais-tu pas aussi mon ami Persan ?»« Qui est-il et pourquoi devrais-je l'emmener ?» s'enquit le prince. « Me voici !» fit une voix aiguë à son côté, et le prince Karel aperçut un homme avec un bandeau noué sur les yeux. « Mon regard est si pénétrant que je peux voir à travers n'importe quoi !» déclara Persan. « Ma foi, cela pourrait être utile !» murmura le prince. « Viens avec moi !» Et ils partirent tous ensemble. En chemin, le prince Karel leur expliqua sa quête. Persan ôta son bandeau, découvrant des yeux d'un bleu incroyablement pâle. Il regarda autour de lui, à travers une immense colline, au-delà d'une forêt sombre et sous un lac profond. « Je vois la princesse !» s'écria-t-il. « La forteresse du sorcier se trouve à plusieurs lieues d'ici. Nous devons nous diriger vers le nord. » Et ils s'élancèrent au galop aussi vite que leur monture le leur permettait. À la nuit tombante, ils arrivèrent au bord de la forteresse à l'aspect sinistre. En franchissant le pont-levis, le prince Karel se réjouit d'avoir trois compagnons. Ils suivirent un long couloir et se retrouvèrent dans une vaste salle de banquet, au fond de laquelle flambait un grand feu. La pièce était occupée par des seigneurs et des dames aux riches parures, qui ne semblèrent pas remarquer les nouveaux venus. En regardant autour de lui, le prince Karel comprit, en frémissant, que ces seigneurs et ces dames avaient été transformés en statues de pierre. À l'autre bout de la salle, la porte s'ouvrit avec fracas. Le sorcier apparut, habillé des pieds à la tête de soie rouge sang. Il tenait par la main une jeune fille d'une grande beauté, toute vêtue de blanc et d'argent, avec une couronne de minuscules perles sur ses longs cheveux bruns. Elle affichait un air pâle et triste et ne souriait pas. Les yeux du sorcier brillèrent de méchanceté en découvrant le prince Karel. « Eh bien, jeune homme, voilà la princesse que tu veux me prendre !» dit-il d'une voix semblable au sifflement d'un serpent. Le prince Karel sourit à la princesse et voulut lui parler, mais elle semblait sculptée dans le marbre et ne prononça pas un mot. « Elle sera à toi si tu veux trouver où je l'ai cachée avant le lever du jour. Mais si tu échoues, toi et tes étranges compagnons seront changés en statues de pierre !» lança le sorcier, qui toisa avec mépris, grand, large et perçant, avant de s'éloigner en emmenant la princesse. Le prince et ses nouveaux amis se regardèrent, consternés. Ils se sentaient épuisés et, bien que sachant qu'ils auraient dû se mettre immédiatement à la recherche de la princesse, ils se laissèrent tomber sur un profond divan près du feu pour se reposer un moment. Mal leur en prit. Bientôt leurs yeux se fermèrent et le sommeil les terrassa tous, même le prince Karel. Ils dormirent si profondément qu'on aurait pu se demander s'il n'y avait pas de la magie dans l'air. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient au-dessus des montagnes lointaines, le prince se réveilla en sursaut. Où était la princesse ? Son cri de souffrance tira du sommeil grand, large et perçant. « Ne craignez rien, prince, nous la retrouverons !» affirma Grand. Persan arracha son bandeau et regarda par la fenêtre. « Je la vois ! Le sorcier l'a attachée aux plus hautes branches d'un grand, grand arbre, sur une île, au milieu d'un large, large lac. Venez, mes amis, allons la secourir !» s'écria-t-il. Grand prit Large et Persan dans ses bras et s'élança sur la route, franchissant 10 lieues à chacune de ses enjambées. Dès qu'ils atteignirent le large, large lac, Large s'étendit au bord du rivage et se mit à boire. Il but de toutes ses forces sans s'arrêter, et bientôt toute l'eau eut disparu. Grand s'avança jusqu'au milieu de l'île et cueillit délicatement la princesse sur les plus hautes branches du grand, grand arbre. Persan tourna de nouveau les yeux vers la forteresse. « Vite, mon ami Grand ! Le sorcier s'est réveillé et il dévale l'escalier menant dans la grande salle » s'écria-t-il. Grand fit demi-tour, perçant sur ses épaules la princesse sous son bras droit et Large se cramponnant à son bras gauche et courut aussi vite qu'il put vers la forteresse. Le prince Karel, pendant ce temps, était en proie au plus total désespoir. Il entendait le sorcier dévaler les marches, mais il ne décelait aucun signe de ses amis, ni surtout de la belle princesse Katia. Puis, soudain, ils surgirent devant lui, au moment même où le sorcier apparaissait sur le seuil. En voyant la princesse Katia dans la salle, et le prince Karel auprès d'elle, brandissant son épée, le sorcier poussa un grand cri de rage et se transforma en un gigantesque corbeau noir d'encre. Il s'envola par la fenêtre et plus jamais on ne le revit. Ensuite, plusieurs choses se produisirent en même temps. La princesse rougit et remercia le prince et ses compagnons de l'avoir délivrée. Puis leur expliqua comment le sorcier l'avait faite prisonnière. Les seigneurs et les dames revinrent à la vie et les serviteurs arrivèrent portant de grands plats de nourriture et des bouteilles de vin. Quand tout le monde eut mangé et bu son content, les conversations reprirent. Le prince Karel expliqua qu'il n'aurait jamais réussi à retrouver la princesse Katia et à la secourir sans ses remarquables compagnons, grands, larges et perçants, et les supplia de venir au château avec lui et la princesse. Mais tous trois déclarèrent à l'unisson que leur travail était terminé et reprirent la route. Pour autant, que je le sache, ils vagabondent encore aujourd'hui de par le monde.
allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Loi sur le divorce. Assemblée législative. Décret du 20 septembre 1792. Décret sur le divorce. L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte, considérant que déjà plusieurs époux n'ont pas attendu pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce, décrète ce qui suit. Paragraphe 1er. Cause du divorce. Article 1er. Le mariage se dissout par le divorce. 2. Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux. 3. L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. 4. Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés, savoir, petit 1, sur la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux, petit 2, sur la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes, petit 3, sur les crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre, petit 4, sur le dérèglement de mœurs notoires, petit 5, sur l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme pendant 2 ans au moins. Petit 6. Sur l'absence de l'un d'eux sans nouvelles au moins pendant 5 ans. Petit 7. Sur l'émigration dans les cas prévus par la loi, notamment par le décret du 8 avril 1792. 5. Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.
Allumeurs de réverbères.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Une utopie en construction, une parole et un éco-geste.
Extrait de « Je reviens de l'inconnu » de Lyle Watson, Albin Michel, 1977.
Alors que je participais un soir à l'une de leurs réunions, ils se lancèrent dans une longue conversation splendidement ordurière avec leur fantôme imaginaire, lequel termina la séance en soulevant du sol une très lourde table dont il se servit pour poursuivre autour de la pièce le photographe d'un magazine américain qu'il finit par clouer contre un mur. Pas une seule personne du groupe n'a un contrôle conscient sur ce qui se passe et aucune d'elles n'est indispensable. Tout ce qu'il faut, c'est un nombre suffisant de participants. Un accord collectif intervient alors qui rend possible les phénomènes de psychokinésie. L'acceptation consciente d'un tel accord est simplifiée par l'invention du fantôme et facilitée par le fait que les règles et les responsabilités normales sont suspendues au cours de cette approche volontairement puérile. Cela démontre en tout cas une chose, c'est que n'importe quel groupe de gens ordinaires, dépourvu de la moindre prétention psychique, peut produire à la demande des phénomènes paranormaux. N'importe qui peut tourner les principes de la science traditionnelle simplement en faisant semblant de les ignorer. John Taylor, professeur de mathématiques au King's College de Londres, a entrepris d'héroïques efforts pour forcer les structures de la physique classique et faire en sorte qu'elles s'ajustent aux phénomènes de psychokinésie. Il commença à travailler avec Uri Geller et réalisa ensuite une passionnante série d'expériences avec des enfants. Ceux-ci avaient vu le médium israélien tordre mentalement des objets de métal à la télévision et ils avaient répété ces tours de force. Au cours de ces trois dernières années, ils ont réalisé d'une façon tout à fait indépendante un grand nombre de variations de leur cru. Taylor a suivi toutes leurs expériences. Il les a enregistrées, analysées. Il s'est appliqué à éliminer toute éventualité de fraude et à soumettre à examen les théories possibles. Ces travaux l'ont amené à écarter les forces radioactives, nucléaires et gravitationnelles, car aucune d'elles ne pourrait être manipulée par un être humain avec assez d'énergie pour plier un trombone, et à plus forte raison, une cuillère en acier inoxydable. Il ne reste que la dernière des quatre forces naturelles reconnues par la science, l'électromagnétisme. Taylor mise tout sur elle. Il suppose que les hommes sont capables de produire et d'émettre un champ d'intentionnalité électromagnétique qui agit sur la matière et réciproquement. Et après avoir examiné la possibilité d'un mécanisme, porteur par exemple des oscillations à basse fréquence agissant sur des failles recélées par les objets de métal, il conclut que les phénomènes ne seront totalement compris que lorsque l'on pourra construire un appareil électrochimique capable de reproduire leur effet.
Calotte glaciaire, barrière de glace et glacier. Par Ricarda Winkelmann. Je n'oublierai jamais ce moment de ma première expédition scientifique en Arctique. C'est là que j'ai ressenti ce que signifie véritablement notre entrée dans l'Anthropocène. L'homme est devenu une force géologique. Nos activités affectent de plus en plus toutes les composantes du système terrestre, jusqu'aux deux calottes glaciaires de la planète, au Groenland et en Arctique. Depuis quelques dizaines d'années, la perte de masse des calottes glaciaires et de leurs barrières ou plateformes de glace, des langues de glace flottantes se prolongeant dans la mer accusent une forte accélération. Au total, les nappes glaciaires ont perdu 12 800 milliards de tonnes de glace entre 1994 et 2017. À titre de comparaison, 1 milliards de tonnes de glace représenteraient un cube de glace de 10 000 mètres de côté, soit une hauteur supérieure à celle de l'Everest. À l'avenir, les calottes polaires devraient devenir la première cause possible de l'élévation du niveau des mers. Du fait de leur énorme masse, leur retrait, si minime soit-il, peut très sensiblement accroître le risque de submersion des zones côtières, entraînant de terribles conséquences pour la société, l'économie et l'environnement. De profonds changements commencent déjà à apparaître dans les régions polaires. En 2020, les températures au pôle ont battu des records absolus de chaleur, avec 18 degrés sur la péninsule antarctique et 38 degrés dans l'Arctique. En 2021,
deux épisodes de fonte d'une ampleur inédite se sont produits sur l'Inland 6 du Groenland, qui avait déjà connu une série de fontes massives en 2010, 2015 et 2019. De l'autre côté de la planète, au bord de la mer de Weddell, le plus grand iceberg du monde s'est détaché du flanc occidental de la barrière glaciaire de Filchner-Rhône. L'analyse des images satellitaires a révélé que d'autres gigantesques blocs de glace étaient en train de se séparer de la langue de glace du glacier de l'île du Pin, accélérant l'écoulement de l'un des glaciers qui est déjà le plus rapide de l'Antarctique. Ces événements ponctuels sont certes des instantanés, mais ils sont révélateurs des changements aussi radicaux que significatifs qui se produisent actuellement sur les Inland 6 et autour d'eux. Les régions polaires sont les systèmes d'alerte les plus efficaces de notre planète, qui nous renseignent sur l'avancée du changement climatique et tous les signaux sont à présent au rouge. Nous ne devons pas les ignorer. Si nous n'infléchissons pas le cours du changement climatique, nous donnerons une impulsion supplémentaire à la déstabilisation des calottes glaciaires qui risquerait de déclencher des cycles d'auto-renforcement incontrôlables. L'un de ces cycles d'auto-renforcement ou boucle de rétroaction positive est lié à la fonte de la surface de l'Inland 6 groenlandais. À mesure que la fonte s'accélère, la surface s'enfonce doucement et perd de l'altitude. Dans l'environnement plus bas, l'air est généralement plus chaud, ce qui entraîne une accélération de la fonte et une perte de hauteur supplémentaire, et ainsi de suite. Au-delà d'un seuil de température critique, cette rétroaction, fonte-altitude, pourrait conduire à un retrait irréversible des glaces jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus rien de la calotte du Groenland. Le climat de l'Antarctique étant plus froid que celui du Groenland, ce n'est pas tant la fonte de surface qui menace la stabilité de sa nappe glaciaire que ce qui est à l'œuvre sous la calotte. Une grande partie de la perte de masse de l'Antarctique résulte de la fonte des langues de glace flottantes qui entourent le continent. Lorsqu'elles entrent en contact avec les eaux plus chaudes de l'océan, elles s'effondrent, accélérant l'écoulement des glaciers de l'intérieur des terres vers l'océan, ce qui peut enclencher un cercle vicieux de perte de masse. C'est à cause de ces boucles de rétroaction positive que l'on considère les deux calottes polaires comme des éléments de bascule du système terrestre. Dès lors qu'à l'approche d'un seuil critique de réchauffement ou point de bascule, une infime perturbation peut suffire à déclencher des fontes de glace soudaines et de grande ampleur qu'il sera impossible d'enrayer. Et enfin, pour finir cette rubrique environnement, la recette éco-geste pour vous et pour faire plaisir à vos proches. La recette pour confectionner du liquide vaisselle. Mode d'emploi. Versez 100 ml de savon noir, 100 ml d'eau chaude, une cuillère à soupe de cristaux de soude. Agitez, c'est prêt. Pour un coût de production d'environ 90 centimes, vous venez de confectionner 200 ml de liquide vaisselle écologique, efficace et économique.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Prime de vacances. Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021, étendue par arrêté du 5 avril 2023. Article 7.3, en vigueur étendue. Prime de vacances. L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévues par la convention collective au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise. Dans le respect du principe d'égalité de traitement et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise, soit de façon égalitaire entre les salariés, soit au prorata du salaire, avec le cas échéant une majoration pour enfants à charge, soit par la majoration de 10% de l'indemnité de congé payé versée à chaque salarié, soit en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence. toute prime ou gratification versée à l'ensemble des salariés en cours d'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales à 10% prévues au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent être substituées au paiement de la prime de vacances, un 13e mois, l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991, une prime d'objectif prévue par le contrat de travail. Pour plus d'informations, rendez-vous sur legifrance.gouv à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de l'autre radio ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical, Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.